Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Des âmes vibrent au son d'une basse rapide, infinie, hypnotique. Des corps entrent en transe, se démènent, communient en rythme avec ces morceaux entre 130 et 160 BPM. Les drogues synthétiques circulent, l'ecstasy notamment, qui vient tout juste de faire son apparition. Le public est en immense majorité européen, mais aussi américain ou encore japonais. Le climat, lui, est tropical. Il fait plus d'une trentaine de degrés. La sueur de ces corps à moitié dénudés participe pleinement de l'ambiance si particulière qui règne. Vous n'êtes pas à Berlin, à Londres ou à Paris, ni à Chicago ou à Détroit, mais bien à Goa. Goa, cet état de la côte sud-ouest de l'Inde, ancienne colonie portugaise, est une région qui vit essentiellement du tourisme, et notamment d'un tourisme bien particulier, celui des raveurs. À partir de la fin des années 80, des dizaines de milliers de jeunes occidentaux viennent y trouver leur coin de paradis, qui mélange révélations spirituelles et musique techno, plus précisément ce qu'on appelle la trance. Il s'y développe même un genre musical appelé trance goa, dont les morceaux plus longs et progressifs ont inspiré ce qu'on appelle aujourd'hui la psytrance. C'est sur l'apparition de cette branche de la techno que revient ce numéro de Technoculture de Patrick Chompré, réalisé par Patricia Prigent, avec le fondateur du label Spirit Zone Recording, l'allemand DJ Antaro, le journaliste et musicien Gabriel Mazurel et le sociologue Michel Maffesoli. Une émission diffusée pour la première fois le 11 septembre 1999 sur France Culture.
Bonjour étranger, d'où viens-tu ?
Technoculture.
500 years later.
Bonjour, ce 11 août 99 est une journée particulière à bien des égards. C'est aussi une journée particulière dans la musique électronique puisque de nombreux festivals techno sont organisés autour de cette éclipse en Hongrie, en Grande-Bretagne, en Belgique. Parallèlement à la technologie et à son utilisation, les phénomènes naturels, un certain type de retour à la nature, de contact avec la nature, est une des valeurs de la techno, valeur démontrée lors des fêtes en plein air, le plus souvent dans des endroits sauvages, et en particulier dans le courant trance qui fait souvent référence à la Terre. Le nom Gaïa est d'ailleurs utilisé par un des premiers labels de trance et ça donne aussi le nom de soirée fort connue de ce mouvement. C'est donc ce courant trance que nous vous proposons d'explorer aujourd'hui avec différents acteurs ou observateurs de ce mouvement, des musiciens, des DJ, le public et puis un sociologue. Nous évoquerons aussi Goa, état de l'ouest de l'Inde, Goa qui a été l'un des lieux fort de la trance qui a même donné naissance à un courant appelé la Goa Trance. Alors pour commencer, Spongel, un duo britannique composé de Rajaram, un flûtiste héritier des années 70, fondateur du label TIP, et puis Simon Posford, compositeur qui a donné sa substance à ce style trance. We'll be right back. Gabriel Mazurel, vous êtes journaliste et musicien. Vous suivez ce mouvement depuis quelques années maintenant. Alors pour vous, où se situe l'origine de ce courant trans ?
En Allemagne, en 90-91. À l'époque, il n'y a pas encore tous les courants que l'on connaît aujourd'hui, jungle, garage, drum and bass, toutes ces choses-là. Il existe une musique américaine techno de Détroit et puis la house de Chicago, ça c'est un petit peu pour simplifier. Et puis donc cette musique américaine débarque en Europe, notamment au club Trésor de Berlin pour la techno, ou alors en Grande-Bretagne avec l'acid house. Ça c'est en 89, pendant l'été qu'on appelait maintenant Summer of Love.
Oui, à cause de la pilule Ecstasy qui circulait et qui donc désinhibait
les gens, voilà. C'était en fait à ce moment-là, donc les Européens commencent à produire cette musique techno. En Belgique, on parle de New Beat. Les Anglais ont mordu à l'hameçon Acid House, donc avec des groupes comme Baby Ford, West Express. Les Hollandais inaugurent des expériences plus extrêmes, hardcore et gabber, et puis donc les Allemands qui font un petit peu tout à la fois, sans doute parce qu'ils ont une culture électronique plus affirmée, avec des groupes connus comme Kraftwerk ou DAF qui existent depuis longtemps. Donc finalement, ce sont eux qui arrivent à faire une techno proprement européenne qui s'appellera trans allemande. Musicalement, on pourrait dire que c'est la trans utilise en fait les sons techno-américains, mais avec un côté plus mélodique, moins minimaliste, peut-être même plus commercial. Le premier album véritablement trans ou désigné comme tel, c'est celui de l'allemand Sven Vett qui s'intitule Accident in Paradise en 1992.
Sven Vett qui a été à Goa, voilà. Et qui en est revenu fortement impressionné.
Il a été influencé par l'ambiance là-bas, la musique de Goa donc, et il s'en est inspiré pour écrire cet album. Et c'est vrai qu'il y a cette connexion qui s'effectue à ce moment-là dans les années 92-93 entre l'Europe et Goa. Il y a aussi un autre exemple qu'on pourrait donner, ce sont les Danois d'Overlords qui font partie de la première vague allemande avant cette période plus Goa en 92-93. Et donc ils accrochent sur ce mouvement Goa. Ils vont devenir le groupe Coxbox, qui est un des groupes phares de la trance de Goa avec Juno Reactor. Mais à l'époque, ils ont encore le nom d'Overlords lorsqu'ils sortent ce titre qui s'appelle God's Eye on Goa.
Alors nous voici maintenant dans une deuxième période de la trance, plus anglaise et aussi plus internationale.
Voilà, donc la connexion s'est faite avec Goa et ce sont les Anglais qui vont faire tout exploser, si je puis dire. À l'origine, c'est Youth, qui était l'ancien bassiste de Killing Joke, un groupe rock des années 80. Et c'est lui qui donc va aussi expérimenter ses soirées à Goa. Ça va être sans doute une révélation pour lui, puisqu'il va revenir en Angleterre. Il va vouloir diffuser cette musique en Europe. Il monte son studio Butterfly et puis son label qui s'appelle Dragonfly. Il faut dire aussi qu'au même moment, les Israéliens aussi se mettent à la trance avec le groupe Astral Projection. C'est Avinissim et Lior Perlmutter qui sont les musiciens de ce groupe et qui vont produire beaucoup de titres sous différents noms sur les compilations Trust in Trance. Mais pour revenir donc à Dragonfly, leur première compilation sort en 94. Elle s'intitule Order Ordonata. Et en fait, on trouve tous les grands noms des précurseurs de cette musique et qui vont monter tous les labels anglais et tous les groupes qui ont fait toute cette musique. Pour exemple, The Infinity Project, le groupe de Rajaram et Gramood, qui vont fonder le label TIP. Il y a les Français de Total Eclipse qui ont créé donc cette année leur propre label. Il y a les Anglais de Slinky Wizard qui ont fondé le label Flying Reno, qui est très en vogue aussi en ce moment. Il y a aussi Prana, alias Tsuyoshi Suzuki, qui est un Japonais exilé à Londres et qui est à l'origine du label Matsuri. Et puis donc le petit génie de la trance, si on peut dire, Simon Posford, c'est l'ingénieur du son du label Dragonfly. En fait, Hughes l'a découvert chez Virgin, il était ingénieur du son, il devait avoir 19 ans. Et il l'a engagé pour être derrière la console de son studio et il s'est trouvé que c'était un petit génie dans la recherche du son, du mix. Il est très branché sur le psychédélisme et l'usage du LSD et puis pour composer sa musique. Et donc il va faire sa première production sur Dragonfly qui s'intitule LSD et qui a été un hit dans les soirées trans de Goa et d'ailleurs.
C'est le titre le plus connu de ce mouvement.
I believe. The advent of acid, we discovered a new way to think, and it had to do with piecing together new thoughts in your mind. Why is it that people think it's so evil? What is it about it that is scares people so deeply? Even the guy that invented it, what is it? Because they're afraid that there's more to reality. That there are doors that they're afraid to go in and they don't want us to go in there either because if we go in we might learn something that they don't know and that makes us a little out of their control.
Du 24 au 26 juillet dernier se tenait à Hambourg, en Allemagne, une manifestation appelée VOOV Experience. C'est un des hauts lieux de la trance depuis 8 ans. Elle est organisée par le label allemand Spirit Zone, dirigé par DJ Antaro, un homme d'une quarantaine d'années, plutôt posé, quasiment méditatif. Il parcourt le monde avec ses disques et ses deux platines CD avec lesquelles il mixe.
« Quand j'avais 18 ans, ou disons quand j'étais jeune, j'ai eu le sentiment que j'avais vraiment besoin d'aller en Inde. Je ne savais pas pourquoi à cette époque. Simplement, je ressentais une forte attraction et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup voyagé en Inde, au Népal, dans les pays voisins.
Came to this place called Goa.
Et finalement, je suis arrivé à cet endroit qui s'appelle Goa.
Small state in India.
Un petit état en Inde.
On the Arabian Sea and it's wonderful.
Sur l'océan Indien.
Beautiful people and it's very relaxed.
Il y a des plages superbes.
There were parties already, different
parties. Des gens merveilleux, l'atmosphère y est détendue. Il y avait des fêtes déjà avec du rock and roll, du reggae.
Very, very beautiful because it's international commune of people, people.
C'était une réunion internationale de gens, des jeunes de partout dans le monde.
Like sitting on the campfire and listening to music and
qui se rassemblaient autour d'un feu pour écouter de la musique, se parler, se rencontrer.
Just a beautiful thing to experience.
Actually, chose très agréable à vivre.
People expanding out of their countries and exploring.
En fait, c'était les hippies qui voyageaient, qui exploraient le monde et en particulier l'Asie. Car en Asie, au moins, on peut expérimenter des choses différentes de ce qu'on peut vivre en Europe ou en Amérique. Il y a une autre vision de la vie basée sur des religions différentes, un passé différent et d'autres expériences. Pour moi, il est bon pour un esprit occidental de rencontrer, de connaître ce qu'un esprit oriental peut vivre.
Well, there was a time, I don't exactly remember which year it was, but it was in the
Je ne me souviens plus très bien, mais vers le début ou le milieu des années 80,
music certainly changed totally from one moment to the other.
La musique a changé radicalement d'un jour à l'autre. Auparavant, tout le monde dansait au son du reggae.
Suddenly played by some DJs.
Et puis tout à coup, ce fut le début de la musique électronique jouée par les DJs. La première réaction des gens a été l'énervement. C'était pas la même musique, la même ambiance que le reggae. Je me rappelle que moi aussi, à ce moment-là, j'étais agacé par ces DJs qui jouaient cette musique d'ordinateur plutôt stupide. Les hippies n'appréciaient pas les ordinateurs. Ils avaient toujours cette idée que l'électronique, les ordinateurs sont mauvais car ils peuvent nous contrôler. Mais c'est une question d'utilisation, c'est juste un outil dont on peut faire bon ou mauvais usage.
In India or in Goa was never really music played which were actually from India.
En Inde ou à Goa, on n'a jamais vraiment joué de la musique d'origine indienne. C'est juste ce phénomène que des gens du monde entier, soi-disant hippies, se sont rassemblés à cet endroit pour une raison quelconque. Mais la musique ne venait pas de cet endroit. Ça s'appelle de la musique Goa, mais ça fait juste référence à l'endroit où les fêtes ont eu lieu. Michel Marfezoli, bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à la Sorbonne. Alors tout d'abord, peut-être une question générale sur la techno. C'est un courant qui a maintenant 10-11 ans, qui dépasse probablement le cadre strict de la musique. Question générale, quelle vision avez-vous vous-même de ce courant et puis de ceux qui gravitent autour ?
Écoutez, moi je pense que c'est un courant très, très important et que depuis longtemps j'essaie de rendre attentif à ce que cela représente. il est, à mon sens, vraiment révélateur, ou si j'emploie des gros mots, paradigmatique en quelque sorte de ce qu'est notre société, c'est-à-dire tout à la fois justement liant la techno, la technique, des aspects, d'autre part faisant des mélanges entre les diverses musiques, le métissage, et puis en même temps renvoyant à toute une série de valeurs que j'appelle archaïques, sauvages, naturelles, et cette espèce de conjonction explosive qui me paraît bien caractériser la fin du siècle.
Oui. Dans les signes distinctifs de la musique elle-même, il y a le bruit qui est très important, un bruit qui est très, très intense. C'est pas dit de façon péjorative du tout, chaque musique est un bruit, mais il y a donc un bruit qui est très important. La répétition aussi, c'est aussi la base de la musique. Est-ce que ça aussi, ça participe de ce courant-là?
Oui, je pense que le tempo, en effet, est un tempo, on le sait, moi je n'en connais pas le détail technique, mais enfin, tout un chacun sait qu'il y a un tempo d'au moins 120.
Oui, minimum, oui. Minimum, jusqu'à 180.
Voilà,
oui.
Bon. Alors, mais quelque chose de très important. Moi, je pense qu'en effet, ça correspond à cette espèce d'accentuation, d'intensité, de ce que je disais il y a un instant, de sauvagerie, qui va de pair, d'ailleurs, quand on le compare avec les sociétés primitives ou d'autres types de sociétés, ou ce qu'on appelait les sociétés primitives, qui va de pair avec ces phénomènes de transe qui reposaient également sur quelque chose de cet ordre, un domaine lancinant, un retour lancinant de même bruit, et puis une espèce d'exagération, en effet, du tempo et du bruit. Non, je crois qu'il y a là quelque chose qui mérite, enfin qui pour moi est intéressant, je dirais, en tant que révélateur, vous avez bien compris pour moi, de ce qu'est notre société, qui à bien des égards d'ailleurs échappe à de nombreux observateurs sociaux qui continuent à rester sur une conception sociale et donc musicale somme toute assez classique, même dans ses aspects les plus modernes, et qui finalement ne se rendent pas compte, ce que j'appelle moi le retour hystérique en quelque sorte, dans le sens fort du mot, c'est-à-dire c'est le ventre qui bouge, ce n'est plus le cerveau qui est sollicité, mais c'est véritablement le ventre, hystérus en grec. Et bien moi je pense qu'il y a quelque chose d'hystérique dans cette musique, à ne pas prendre dans le sens péjoratif du terme, mais dans son sens étymologique, et pour moi révélateur de tout ce qui se passe dans la vie sociale, où de plus en plus les émotions communes, les affects partagés, eh bien, vont être en quelque sorte un des dénominateurs communs.
C'est vrai qu'on a un petit peu l'impression que cette évolution, cette révolution se déroule en marge vraiment de la société, et que finalement, on en parle un peu, bien sûr on en parle dans les médias, mais finalement quand on va vraiment dans les rêves parties, on voit quelque chose qui est très très peu dit et très très peu exprimé dans les médias. Comment ça se fait ça?
Oui, oh ben vous savez, d'une part je crois que l'intelligentsia en son ensemble, les médias en particulier, sont assez déconnectés de la réalité sociale, il faut bien dire les choses, hein. Je crois que le drame de cette fin de siècle, c'est qu'à bien des égards, ceux qui sont censés dire la vie, ceux qui sont censés dire le monde, les universitaires, les journalistes, les hommes politiques, n'ont qu'une conception très institutionnelle, en quelque sorte, du monde. Et là, il y a d'ailleurs un gros problème quand ce fossé va devenir évident, quand la vraie société ne se reconnaîtra plus dans la société légale, on peut se demander ce qui va se passer. Mais bon, mis à part donc cette méconnaissance médiatique, d'une manière générale, cette méconnaissance de l'intelligentsia, je préfère dire, hein, vis-à-vis de ces formes-là. Non, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui, pour moi, représente une forme de centralité souterraine. Bien sûr, quelque chose qui n'est pas reconnu dans l'institution, mais qui touche tout un chacun. Et quand on mène des enquêtes un peu sur les pratiques juvéniles, on se rend compte que toute une génération est contaminé, est sollicité par cette musique, s'y reconnaît. Pour les éléments qu'on a dit depuis tout à l'heure, hein, la dimension métissage, cette dimension hystérique, quelque chose qui en quelque sorte fait qu'on va coller à l'autre, hein, une sorte de viscosité qui me paraît être une des caractéristiques du temps, alors que justement ce qui marquait la société moderne, c'était ce qui me distinguait de l'autre, ce qui me séparait, ce qui faisait que j'étais un individu. Là, ce n'est pas un individu, c'est pour ce que j'appelais moi une tribu collective en transe, si vous voulez, où le seul ce qui existe, ce qui est uniquement reconnu, c'est que le fait que je colle à l'autre, hein. Je crois que cette image que j'ai dit il y a un instant de viscosité caractérise bien ce genre de musique. Mais encore une fois, je dis bien, ce n'est pas reconnu par l'institution sous ses diverses modulations, c'est par contre largement capillarisé dans l'ensemble du corps social, et à ça il faut être attentif à mon avis.
Etnica, c'est un trio d'Italiens, Globetrotter, qui joue partout dans le monde, surtout les zones équatoriales, de Bali au Venezuela. Ils ont d'ailleurs intitulé leur dernier album Équator.
For me, it's a kind of meditation, dancing.
Pour moi, la danse est une forme de méditation.
Synchronize with your mind, your body. Yeah, it's really important.
On synchronise son corps et son esprit.
Most of the time, after a good party, you feel really, really good.
En général, après une bonne fête, on se sent très bien. Après avoir beaucoup dansé, on est fatigué, mais propre intérieurement. Nous essayons de mélanger des sons naturels que nous recueillons lors de nos voyages avec de la musique électronique. C'est une fusion efficace. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens essaient de trouver des fêtes dans des zones tropicales. Selon moi, c'est le type même de la musique du futur. Quand vous la jouez en pleine nature, dans la jungle, sur la plage, le mélange des deux ingrédients, nature et électronique, prend toute sa dimension. Il y a beaucoup de beaux endroits sous les tropiques où l'on peut faire des fêtes jungle. De l'Australie à l'Indonésie, en passant par l'Inde, l'Amérique du Sud, le Brésil. Quand il y a eu cette éclipse au Pérou, nous avons organisé beaucoup de fêtes. Et puis au Brésil, tous les travelers sont descendus à Bahia.
Dans
ce genre de fête, il n'y a pas de business autour. Nous louons une sono, nous décorons l'endroit. Ensuite, c'est la fête gratuite. On n'a pas cette impression de commerce. La situation est claire. Et puis, quand on a dansé toute la nuit, le matin, on saute dans l'eau. C'est vraiment bien. On l'a compris, Goa, état de l'ouest de l'Inde, ancienne colonie portugaise, est donc un haut lieu de la trance, il l'a été en tout cas. On vient du monde entier pour ces fêtes, comme Pascal, plasticien à Paris.
Goa et toute la zone de trance Goa, et des endroits où se déroulent les fêtes, est très très, très, très vide dans la journée. Moi, j'ai été assez fasciné, on parlait des couchers de soleil de Goa où tous les gens se retrouvaient. Mais les gens se retrouvent parce qu'ils se lèvent à cette heure-là, quoi. Donc, ils se lèvent pour le coucher de soleil. Et on se retrouve dans des endroits. Il y a des endroits mythiques comme le Primrose à Vagator, le Seashore en Juna, qui sont des endroits où tout le monde se retrouve.
Ça, c'est des bars, des clubs.
C'est des bars avec une piste où on peut... On peut danser, je dirais se préchauffer pour le début de la soirée. Et puis apparaît toujours en courant de soirée le chapelier fou qui emmène les gens vers les rêves qui sont soi-disant interdites. Mais c'est un petit peu du coiffé décoiffé, quoi. Parce que c'est, à mon avis, c'est très très organisé. Puisque quand on arrive sur les spots type bamboo forest, enfin des endroits qui sont dans la nature,
là.
Les arbres sont peints en fluo et éclairés à la lumière noire. Il y a des myriades de petites nattes avec des mamas indiennes en train de préparer du thé, des gâteaux, tout ce qui est utile aux gens qui ont les dents qui poussent un peu en courant de soirée.
Donc c'est plus organisé que ça en a l'air.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça.
C'est évident.
Et alors là, musicalement, qui donc c'est une succession de DJ.
Ça dépend aussi des soirées, des autorisations. J'ai rencontré des DJ français qui se relayaient. J'ai vu des gens comme Goa Gil qui peuvent mixer 72 heures d'affilée.
C'est un des pionniers de Goa, lui.
Ouais, c'était un pionnier de Goa. Voilà, mais c'est jamais, c'est pas la transe avec Flyer. Il y a toujours une surprise. On suit le Chapelier Fou. Au moment, il y a un mot d'ordre qui est lancé. Il y a 100 ou 200 motos qui démarrent en même temps et on s'arrête à proximité de clairières dans les bois et on tend l'oreille. Tout le monde coupe son moteur et c'est. Et à ce moment-là, toutes les motos redémarrent et
on se dirige au son.
On se dirige au son, quoi.
Et est-ce que tout le monde, est-ce que tous les DJ mixent trans Goa ou bien est-ce qu'il y a d'autres styles ?
Non. Il y a du hardcore, il y a des choses. Il y a des choses très différentes. La Goa trans est présente, je dirais, elle est chez elle, mais il y a toutes sortes de techno, quoi.
Alors Michel Maffezoli, certaines valeurs du monde trans, techno, comme la gratuité des fêtes, la tolérance, par exemple, ne paraissent pas tellement éloignées des valeurs hippie des années 70.
Non, je pense qu'il y a des proximités qui n'ont pas été relevées, mais qui existent. Vous savez, moi j'ai tendance à dire que quand on regarde les histoires humaines, elles sont limitées, secrètes, puis un peu plus discrètes, puis elles s'affichent, elles se développent. Le mot que j'ai employé il y a un instant, elles se capillarisent dans l'ensemble du corps social. Et à mon sens, les valeurs hippies ne représentaient que ce qui s'appelait une contre-culture d'ailleurs, ou d'une manière péjorative, une subculture, enfin bon, peu importe. Mais disons que c'était quelque chose d'assez limité, même si ça avait de l'importance. Ce sont ces valeurs-là, bien sûr, dites d'une manière différente maintenant, qui se sont répandues. Et c'est ça qui me paraît être intéressant dans ces grands rassemblements, dans ces affoulements musicaux, c'est que, en effet, vous avez bien raison de le souligner, moi je crois qu'il y a là l'expression de ces nouvelles formes de générosité, des formes de solidarité, d'acceptation de l'autre, quelque chose qui renvoie au métissage. On n'incitera jamais assez justement sur le sample qui caractérise en quelque sorte cette musique. Quelque chose aussi qui ressemble, je dirais, à une forme d'initiation. Il faut s'y rendre dans cette partie, c'est pas évident. Et cela renvoie, je dirais, à l'initiation qui fait que, à partir de ces philosophies orientales, on se recherche soi-même. On n'est pas donné de but en blanc, mais il faut arriver à découvrir le trésor qui est en nous. Vous voyez, il y a toute une série de schèmes, si on parle en termes de structuralistes, que l'on retrouve en quelque sorte dans ces grands rassemblements et qui, à mon avis, est en effet à rapprocher avec ce qui était les hippies, mais maintenant, je dirais, beaucoup plus répandu. Mais j'insiste là-dessus, beaucoup plus répandu que l'on ne croit, c'est-à-dire que, bien sûr, ce ne sont que des moments particuliers, ces moments de rave, par exemple, ou les rassemblements techno, mais ils sont de plus en plus nombreux, tant en ce qui concerne dans le temps, mais également dans l'espace.
La prise de drogue, qui est donc souvent, enfin qui est fréquente, va bien sûr dans ce sens de l'irrationalité aussi.
J'ai pas dit irrationalité, hein. Moi je dis non-rationnel.
Non-rationnel.
C'est-à-dire l'irrationalité, c'est une stigmatisation, tandis que le non-rationnel, ça reconnaît qu'il y a quelque chose qui échappe à une certaine raison instrumentale, bourgeoise en quelque sorte, mais que cela peut avoir sa raison propre. Donc moi je dis non-rationnel. Oui, mais vous savez, bon, maintenant il convient, enfin moi je le dis depuis fort longtemps d'ailleurs, hein, chaque société a besoin de drogue. à bien des égards pour résister contre l'angoisse du temps qui passe, contre la mort irrémédiable et des choses de cet ordre. Alors, on a trouvé des formes de drogue, il y en a toujours dans chaque société. Le travail a été la drogue, en quelque sorte, de la modernité. Le vin, maintenant on reconnaît que des substances de cet ordre, ou le tabac, renvoient bien aussi à ces formes de drogue. Oui, il y a de la drogue. Je pense que il vaut mieux l'accepter en tant que tel, reconnaître comme cela, que ce que c'est, pour en quelque sorte la civiliser, l'homéopathiser, la ritualiser, la canaliser, et que dans la mesure où on ne la reconnaît pas, cela retourne après d'une manière beaucoup plus forte, tel le retour du refoulé, dans des drogues dites dures et des choses qui ne sont pas contrôlées. Donc oui, il y a de la drogue, mais en même temps, relativisons ce mot de drogue en le situant, en le mettant en perspective, ainsi que je l'ai dit, chaque société a besoin d'une drogue pour en quelque sorte conjurer l'angoisse du temps qui passe.
Dernier point, Michel Maffezoli, tout le courant techno et tous ceux qui gravitent autour de ce mouvement sont souvent très influencés par la science-fiction, par le fantastique, des auteurs comme Philip K. Dick et bien d'autres sont vraiment à la base de nombreuses œuvres techno. Alors comment est-ce que vous voyez cette influence et donc cette irruption de la science-fiction et du fantastique ?
Oui, j'ai dit tout à l'heure, si vous y avez été attentif, que pour moi, un des éléments, c'était la synergie ou la conjonction de l'archaïque et du développement technologique. Et pour moi, c'est une définition que je donne de cette musique, mais également, de manière plus générale, de la postmodernité, où on voit revenir des choses que l'on avait cru dépasser, mais avec... ou en plus, ayant en plus ce qu'est le développement technologique. Eh bien, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que, curieusement, ce que l'on avait cru constater ou observer, ce que l'on voulait, à vrai dire, au 19e, pendant une bonne partie du 20e siècle, c'était une sorte de désenchantement du monde, quelque chose qui faisait qu'à bien des égards, dominait la simple raison, dominait, encore une fois, la technique. Et, curieusement, on voit revenir l'imaginaire, on voit revenir, vous avez dit, le fantastique, on voit revenir tous ces contes et légendes que l'on avait cru dépasser. La guerre des étoiles en est une bonne expression, et puis on pourrait en trouver des quantités d'autres exemples, où c'est le chevalier du Moyen-Âge et le rayon laser, et c'est cette conjonction qui me paraît importante. Eh bien oui, en effet, je crois que, en particulier la techno, accentue, dit en paroxysme, ce processus que je décris, c'est-à-dire à la fois, j'insiste bien, de la technique, et en même temps, les vieux mythes, finalement, archétypaux de l'humaine nature, dont nous sommes pétris, que l'on avait cru, en quelque sorte, évacuer, et qui là reviennent en force. Moi je pense que cette fin de siècle est marquée par le réenchantement du monde, et à bien des égards, la musique techno renvoie bien à ce réenchantement du monde.
Gabriel Mazurel, pour finir sur l'actualité de ce mouvement trans, où en est-il en ce moment ?
Je crois que la trans se renouvelle, en fait elle est un peu obligée de le faire d'ailleurs, parce que c'est vrai que le commerce a un petit peu saturé le marché de compilations un peu schématisées, ce qui a peut-être un petit peu saoulé, si je puis dire, les amateurs du genre. On a toujours quand même des grandes figures de la trans qui sont au-dessus du lot, si je puis dire, puisqu'ils ont une musique très personnelle. Je pense à X-Dream, Juno Reactor ou Coxbox. Sinon, donc, les gens actuellement cherchent un petit peu dans tous les sens. Pour exemple, le label Matsuri de Tsuyoshi va arrêter de sortir des disques jusqu'à l'année prochaine parce qu'ils essaient de trouver un petit peu autre chose en ce moment. Total Eclipse aussi, qui donne des influences jazz ou jungle dans son dernier album. Mais bon, il y a toujours beaucoup de choses qui se font très intéressantes, notamment Simon Posford et Rajaram, qu'on entend en ce moment derrière nous.
Voilà. Et puis pour ce 11 août, eh bien, les festivals liés à l'éclipse solaire, eh bien, sont importants. The Eclipse Lizard, c'est en Cornouailles en ce moment même. Le festival Eclipse Total, c'est à Chigny-Florentville en Belgique. Et puis Solips, c'est en Hongrie. Et ça dure jusqu'au 15 août à Osora. Plus loin dans le temps, à Lisbonne, 27 et 28 août, l'Hypnose Full Moon Party, tout un programme. Enfin, le 31 décembre prochain, pour le passage à l'an 2000, South Africa 2000, à 100 km de Cape Town, une grande fête trans. Ainsi se termine Technoculture. Patrick Chompré, Patricia Prigent et Pierre Mine. Merci à Gabriel Mazurel pour la programmation musicale de cette émission. Le livre de Michel Maffezoli, La conquête du présent, est actuellement réédité par Des Clés des Brouwers. Et puis la semaine prochaine, nous vous convions à un tour international de la techno, la nouvelle circulation des musiques du Japon à Haïti, en passant par la France et la Pennsylvanie.
C'était le courant Transgoa, un numéro de Technoculture de Patrick Chompré, réalisé par Patricia Prigent avec DJ Antaro, fondateur du label Spirit Zone Recording, le sociologue Michel Maffezoli et le musicien et journaliste Gabriel Mazurel. Une émission diffusée pour la première fois le 11 novembre 1999 sur France Culture.